Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Chers amis de Bana Okapi, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien. Bana Okapi, un partenariat Radio Okapi et UNICEF au service des jeunes, des plus jeunes et des parents de la République démocratique du Congo. Nous abordons des sujets liés à la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat, la protection des droits de l'enfant et l'environnement. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale, les jeunes et l'appropriation de l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays est un trésor inestimable. Elle nous raconte qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Mais pourquoi est-il si important de connaître notre histoire? Les jeunes s'y intéressent-ils encore? Et comment l'histoire peut-elle inspirer la jeunesse pour se construire un avenir meilleur? Pour répondre à ces questions, Bana Okapi vous propose un plateau exceptionnel. Nous recevons aujourd'hui de jeunes passionnés d'histoire, des parents soucieux de transmettre leur héritage, un historien et un enseignant qui nous éclaireront sur l'importance de l'histoire pour la jeunesse. Restez avec nous et ensemble nous allons parler des jeunes et de l'appropriation de l'histoire du pays. Sarah Soumbela est à la présentation de ce magazine, une mise en onde de Deps Vita. Christian Mapendano et Chris coordonnent ce programme sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele, Dijano. Le magazine Bana Okapi se lance sur une note de bonne humeur.
Radio Okapi spécial 23e anniversaire. Ça s'est fait ce mardi 25 février 2025 des 10h à 12h dans Okapi Service sur la bande FM et sur les plateformes digitales. Au menu, le rôle de la radio de la paix dans la lutte contre la désinformation et les discours de haine. Zoom sur le processus de production des quelques programmes phares de votre radio, dont Dialogue entre Congolais. À suivre également les témoignages d'un journaliste des radios Okapi basé à l'est du pays. Auditeurs, auditrices et internautes, joignez-vous à nous pour souffler les 23 bougies d'anniversaire de votre radio ce mardi 25 février des 10h à 12h. Radio Okapi, c'est vous.
Les amis de Bana Okapi, les jeunes et l'appropriation de l'histoire de notre pays, c'est notre sujet du jour. S'intéresser à l'histoire de son pays, connaître le figure qui l'ont marqué, est-ce une réalité pour les jeunes Congolais? Notre reporter Sulamit Kipouni est allé à la rencontre de quelques élèves de Kinshasa. Leurs réponses sont encourageantes. Pour la plupart, l'histoire est bien plus qu'une matière scolaire. C'est un voyage dans le passé qui permet de comprendre le présent et de construire l'avenir.
Est-ce que l'histoire de la RDC vous intéresse?
Je dirais que l'histoire de la RDC m'intéresse énormément, car c'est notre identité, notre passé et la clé de notre avenir.
Quelles sont les grandes figures de l'histoire de la RDC que vous connaissez?
Je répondrai qu'il y a Patrice Emery Lumumba, Étienne Tshisekedi, Laurent Désiré Kabila et plein d'autres encore.
Que connaissez-vous d'elle?
Parmi ces trois grandes figures de la RDC que je viens de vous citer, je parlerai de Patrice Emery Lumumba pour dire que c'est un héros national. C'est un homme qui a aimé notre patrie et qui est mort pour l'indépendance de notre pays.
Par quel canot aviez-vous appris de l'histoire que vous connaissiez? C'est par la maison, le film, l'école ou la lecture?
Eh bien, j'ai appris l'histoire de notre pays par le canal de l'école. Mais à part l'école, il y a aussi la maison. J'en ai appris de ma mère, de mon père, ainsi que de mes grands-parents.
Et selon vous, est-il important pour les jeunes de connaître l'histoire du pays?
Oui, ça l'est car ça nous permet de ne pas répéter les erreurs du passé et aussi d'apprendre à valoriser notre héritage.
Est-ce que l'histoire de la RDC vous intéresse?
Oui, elle m'intéresse.
Quelles sont les grandes figures de l'histoire de la RDC que vous connaissez?
La première figure, il y a Patrice Emery Lumumba qui était le premier ministre de notre pays. Mais avant qu'il ne soit, il travaillait comme employé dans une société minière de la province du Sud Kivu qui se situe à l'est de notre pays en 1945. Et puis, en deuxième position, nous avons le président Mobutu dont le nom complet est Mobutu Sese Seko Kukuendo Wazabanga. Il est né un certain 14 octobre 1930 et mort le 7 septembre 1997. Il était un homme de dictature et il gouverna notre pays en 1965 jusqu'à 1997. Il a fait 32 ans au pouvoir. Et puis, en troisième position, nous avons Joseph Kasavubu, qui était le premier président de notre pays, le premier président de la République démocratique du Congo. Il est né en 1917 et mort un certain 24 mars 1969. Et puis nous avons le président Moïse Laurent-Désiré Kabila, né un certain 27 novembre 1939 et mort le 16 janvier 2001. Il était au pouvoir de 1997 en 2001.
Par quel canot aviez-vous appris de l'histoire que vous connaissiez? C'est par la maison, le film, l'école ou la lecture?
À l'école.
Et selon vous, est-il important pour les jeunes de connaître l'histoire du pays?
Oui, il est important pour les jeunes de connaître l'histoire de notre pays.
Pensez-vous que l'histoire qu'on nous enseigne à l'école est suffisante et réelle pour connaître nos origines?
Elle est réelle, mais elle n'est pas suffisante parce que d'abord, dans la plupart de maisons et la plupart de parents n'apprennent pas aux enfants leur origine. C'est rare de voir ça. Et ce qu'ils apprennent à l'école n'est pas suffisant parce qu'à l'école, ils n'entrent pas aux profondeurs de nos origines. Ils s'arrêtent juste par rapport au système éducatif de notre pays. Voilà. C'est pourquoi elle n'est pas suffisante.
Est-ce que l'histoire de la RDC vous intéresse?
Oui, l'histoire de la RDC m'intéresse beaucoup, car elle est pleine d'événements et de découvertes marquant le passé de notre pays.
Quelles sont les grandes figures de l'histoire de la RDC que vous connaissez?
Nous avons comme figure importante la lutte de Patrice Lumumba pour l'indépendance et Laurent Désiré Kabila qui a joué un gros rôle au sein de la guerre de libération. Patrice Lumumba a été le premier ministre du pays, a été assassiné après l'indépendance et Laurent Désiré Kabila a dirigé la rébellion contre Mobutu et a été le président après la chute de ce régime.
Par quel canot aviez-vous appris de l'histoire que vous connaissiez? C'est par la maison, le film, l'école ou la lecture?
J'ai appris l'histoire de la RDC principalement à l'école, mais aussi par des livres, des documentaires et parfois des films sur les événements clés du pays.
Et selon vous, est-il important pour les jeunes de connaître l'histoire du pays?
Oui, car elle nous permettra d'éviter de faire les mêmes erreurs que nos ancêtres, mais de grandir en tenant compte de ça pour ne plus y revenir.
Pensez-vous que l'histoire qu'on nous enseigne à l'école est suffisante et réelle pour connaître nos origines?
Oui, l'enseignement de l'histoire dans les écoles de la RDC est suffisante, mais il serait aussi mieux de se cultiver par des livrets et par des documentaires sur le pays.
Est-ce que l'histoire de la RDC vous intéresse?
Oui, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'apprécie aussi. J'aime beaucoup l'histoire de mon pays.
Quelles sont les grandes figures de l'histoire de la RDC que vous connaissez?
Pour moi, c'est la mort de Patrick Emery Lumumba et l'histoire de l'indépendance. C'était Patrick Emery Lumumba et mort pour l'indépendance.
Par quel canot aviez-vous appris de l'histoire que vous connaissiez? C'est par la maison, le film, l'école ou la lecture?
Pour moi, c'est l'école qui m'a appris ça. C'est l'école.
Et selon vous, est-il important pour les jeunes de connaître l'histoire du pays?
Oui, c'est très important. C'est vraiment important pour nous. Et de bien connaître l'histoire de notre pays.
Pensez-vous que l'histoire qu'on nous enseigne à l'école est suffisante et réelle pour connaître nos origines?
Oui, c'est vraiment réel.
Après avoir entendu les jeunes exprimer leur rapport à l'histoire, place aux parents. L'histoire du Congo fait-elle partie des conversations familiales? Les parents évoquent-ils ces sujets avec leurs enfants? Pour répondre à ces questions, nous donnons la parole à une mère de famille. Madame Véronique, au micro de Plotin Yambenga, nous raconte comment elle-même a grandi dans son village, bercée par le récit de sa grand-mère.
Comment vous appelez?
Je m'appelle Molembe Véronique Mampas.
Et comment transmettez-vous l'histoire de votre famille à vos enfants?
Ouais, l'histoire est très importante, c'est notre passé. Et chaque fois le soir, avant de dormir, je raconte à mes enfants comment ça a été quand on vivait au village, précisément à la cité du Diofa, là où je suis née et grandie. Et je vivais avec ma grand-mère, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Paix à son âme, il est parti tôt. Alors je raconte aux enfants comment la vie a été, comment les études ont été. C'était pas facile de devenir ce que nous sommes aujourd'hui. À ce temps-là, on se rendait dans les villages aux alentours pour chercher quoi manger. Et on se rendait aussi au champ pour aller aider la grand-mère qui nous a appris l'agriculture, quoi.
Et quels sont les récits, les anecdotes ou encore les traditions que vous partagez avec eux?
Nous, on vivait à l'aide de l'agriculture. La grand-mère cultivait les champs. C'est à l'aide de ces champs-là, la culture de millet et de la courge qui nous servait à vendre et payer les frais scolaires. On s'est rendu dans ces temps-là dans la bourse chercher les champignons, les chenilles. Et c'est de cette façon-là qu'on vivait.
Et comment vous abordez les aspects plus difficiles ou douloureux de l'histoire familiale avec vos enfants?
Bon, nous avons vécu des moments difficiles. La façon dont on quittait de village en village, de kilomètre en kilomètre, d'aller chercher les farines, les boutures de manioc en échange aux villages aux alentours. La façon dont nous vivions, descendre à la rivière, chercher de l'eau, parce qu'à notre époque-là, il n'y avait pas assez de forage. On s'est rendu à la rivière pour chercher de l'eau. La vie nous a été difficile. Je raconte aux enfants et à ce moment-là, on nous apprenait comment devenir indépendants. Dans des bas âges, nous avons appris l'indépendance, comment vendre la farine des billets au marché, comment aller chercher ça, aller dans des moulins très éloignés du quartier auquel nous habitions. Alors, après, si les moulins ne fonctionnent pas, nous étions obligés de piler ça, de transformer les millet en farine et enfin revendre. Et
est-ce que quand vous racontez ces anecdotes à vos enfants, ils sont vraiment intéressés?
Oui, bien sûr, ils sont intéressés. Ils nous posent des questions. Comment ça a été? Est-ce que nous, on était capables de piler? Je leur dis oui, on était capables de piler. Dans des bas âges, on se rendait au marché déjà vendre. On nous apprend comment on doit vivre. Demain, les parents nous disaient, quand nous ne serons pas là et vous êtes restés seuls, comment vous devriez vivre?
Et pensez-vous que l'histoire familiale peut aider les jeunes à mieux comprendre l'histoire de leur pays?
Si, l'histoire familiale est très importante. Ça aide les enfants à mieux comprendre l'histoire du pays, la manière dont nous avions vécu les années passées et les années ici, comment la vie est. Ça leur laisse quelque chose dans leur tête.
Et quel rôle pensez-vous que les parents doivent jouer dans l'appropriation de l'histoire par les jeunes?
Les parents ont le grand rôle de transmettre ce qu'ils ont vécu aussi comme expérience à leurs enfants. L'espérance va les aider aussi. Comme moi, on m'a appris de bas âge à être indépendant et à chercher comment devenir autonome en vendant. J'apprends aussi à mes enfants comme ça.
Et comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à développer un esprit critique ou encore une conscience citoyenne?
Bon, les enfants critiquent aussi ce que nous leur disons, nous leur racontons comme histoire, parce que la critique vaut mieux dans la vie d'une personne. En critiquant, à leur niveau, ils vont accueillir aussi ce qu'ils doivent accueillir.
Et pensez-vous que les contenus actuels des cours d'histoire donnés dans les écoles renseignent suffisamment les élèves sur l'histoire de la RDC?
Bon, sur ces cours d'histoire, je vois qu'on parle plus des pays étrangers, de l'histoire de l'Europe ou quoi que ce soit. On n'entre pas en profondeur dans l'histoire de notre pays. Comme nous avions appris ce qui s'est passé, les événements là de Lumumba, de Kasavubu, comment Kinshasa a été, comment la ville de Kinshasa a changé le nom du marché qui était Kinshasa, de devenir Kinshasa. Les enfants ne connaissent pas ça, ils ne connaissent pas comment les rencontres se faisaient entre les peuples Teke et les peuples Wumbu.
Et doit-on apporter quelques changements?
Bien sûr, sur l'histoire de notre pays, parce que nous, en tant qu'enseignantes, on entend aussi quand les profs d'histoire enseignent aux enfants, ils n'abordent pas les points de base de notre pays. L'histoire est racontée un peu à la volée, quoi.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Les témoignages de parents soulignent l'importance de la transmission intergénérationnelle de l'histoire. Un héritage familial et national à cultiver pour les générations futures, selon ce père de famille qui s'exprime au micro de Plotin Yambenga.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Comment on vous appelle?
Je m'appelle Kovo Mukosila.
Et monsieur Kovo, comment transmettez-vous l'histoire de votre famille à vos enfants?
L'histoire est très nécessaire, surtout l'histoire de ma famille. Je ne cesse de les transmettre à mes enfants, surtout les soirs après le travail. À la maison, les enfants me posent des questions sur ma famille. Je ne cesse jamais de les transmettre l'histoire. Par exemple, la façon dont nous avons vécu au village, c'était un moment très difficile. Nous avons vécu un moment de chant. Des fois, on se retrouve au niveau des champs avec nos grands-parents, avec nos parents. Alors aujourd'hui, les enfants nous posent des questions pour savoir la façon dont nous avons vécu à l'époque dans notre famille. Nous nous cessons de les transmettre.
Et quels sont les récits, les anecdotes ou les traditions que vous partagez avec eux?
Les traditions, tellement sont très nombreuses, entre autres. Par exemple, au village, nous vivions les activités telles que la pêche, l'élevage. Je me souviens quand j'étais encore à côté de mon grand-père, qui était malheureusement décédé, puis à son âme, nous a appris comment faire les champs, comment faire l'élevage. Alors c'est ce même élevage qui nous ont permis de pouvoir, n'est-ce pas, étudier. C'était les élevages des porcs, surtout. Alors ça nous produisait un peu d'argent.
Est-ce que vos enfants sont vraiment intéressés par cela?
Oui, les enfants sont vraiment intéressés. Et quand, par exemple, je raconte à mes enfants l'histoire sur l'élevage, ils ne manquent pas à me poser des questions la façon dont cela se faisait. Ils sont vraiment intéressés. Alors, je vous dirais, l'aide même de mes enfants disait, papa, moi je vais étudier, donc je vais faire le vétérinaire et je deviendrai aussi éleveur. Donc les enfants sont vraiment intéressés par rapport à ça.
Et comment vous abordez les aspects plus difficiles ou douloureux de l'histoire familiale avec eux?
Les histoires sont difficiles, oui, nous avons vécu des histoires difficiles. Par exemple, le grand-parent qui était avec nous ne sont plus en vie. Alors aujourd'hui, les enfants me posent des questions, mais le grand-père est où, tout ça? Alors je l'ai dit, voilà, le grand-père n'est plus en vie. Donc ça fait mal aux enfants parce que les enfants voulaient tout simplement voir les grands-pères vivants. D'autres moments difficiles que nous avons vécu, c'était par rapport aux frais scolaires. Quand nous étions sur le banc de l'école, ce n'était pas facile d'avoir de l'argent parce que papa était déjà décédé. Donc c'est maman qui s'occupait de nos frais scolaires, tout comme ça. Donc ce n'était pas vraiment facile. Ça, ce sont aussi des moments douloureux que nous avons vécu dans notre famille, que nous cessons de transmettre à nos enfants.
Pensez-vous que l'histoire familiale peut aider les jeunes à mieux comprendre l'histoire de leur pays?
Oui, oui, oui. Tout commence d'abord par la famille. Parce que la famille, c'est la base. L'éducation des enfants, l'éducation de la jeunesse commence d'abord en famille. La famille, c'est la base. Donc l'éducation familiale ou l'histoire familiale peut permettre, n'est-ce pas, à la jeunesse ou jeunes de bien, n'est-ce pas, connaître l'histoire du pays.
Et comment les parents peuvent-ils aider leurs enfants à développer un esprit critique et une conscience citoyenne?
Ça va permettre à l'enfant de pouvoir connaître des bons côtés et des mauvais côtés du développement, n'est-ce pas, de l'avenir de l'enfant.
Pensez-vous que les contenus actuels des cours d'histoire donnés dans les écoles renseignent suffisamment les élèves sur l'histoire de la RDC?
Oh non, non, non. Pour ça, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que l'histoire actuelle dans les systèmes de l'enseignement dans notre pays est vraiment surtout focalisée sur l'histoire étrangère. Souvent, pas des histoires italiennes. Vous apprendrez. On vous parlera de Napoléon Bonaparte, on parlera de Socrate et tout qu'on sort. Mais difficile qu'on puisse vous parler de Simon Kimbangu, par exemple. Ce sont des bonnes notions que nous devons, n'est-ce pas, enseigner à nos enfants par rapport à leur idéologie. Donc ça, ce sont des choses que nous devons, n'est-ce pas, apprendre à nos enfants, à la jeunesse.
Et vous pensez qu'on doit apporter quelques changements?
Oui, oui.
Lesquels, par exemple?
On doit apporter des changements. Par exemple, la culture. Nous sommes une culture africaine. Et vous allez voir dans les enseignements, que ce soit au niveau primaire, secondaire, voire au niveau universitaire, on nous parle des cultures, par exemple, européennes. Mais notre histoire originaire est souvent rejetée. On nous apprend des histoires étrangères.
Voilà, merci d'avoir répondu à nos questions.
Oui, merci beaucoup.
Chers auditeurs de Bana Okapi, nous avançons petit à petit dans notre sujet, les jeunes et l'appropriation de l'histoire. Et comme nous arrivons à la fin de la première manche de Bana Okapi...
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout... Tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, Bana Okapi s'intéresse à l'histoire de notre pays et à son importance pour les jeunes. L'histoire de notre pays passionne-t-elle encore les jeunes? C'est la question au cœur de ce numéro de Bana Okapi. Si l'intérêt est réel, certains estiment que l'enseignement gagnerait à se recentrer sur le fait marquant de notre propre histoire. Comment transmettre notre histoire aux jeunes générations? Nos invités, historiens, enseignants et activistes nous aident à y voir plus clair dans cette deuxième partie. Je suis Sarah Sumbela et je suis très heureuse de vous accompagner dans cette émission. Un programme coordonné par Christian Mapendano Yatris, une mise en onde de Debsovita et la supervision est assurée par Jean-Marc Matouaki Mofelele Dijanon. Cette seconde partie s'ouvre...
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
L'histoire de la République démocratique du Congo est une source de motivation pour de nombreux jeunes qui s'engagent activement dans les développements et l'émergence du pays. C'est le cas du mouvement Engagement citoyen pour le changement, HARDC, dont les membres ont puisé dans l'histoire nationale des leçons pour promouvoir un changement de mentalité. Nera Chanira Kaninda, coordonnateur des HARDC, souligne l'importance de la connaissance historique pour les jeunes générations pour mieux connaître les forces et les faiblesses, pour mieux comprendre le présent et construire l'avenir. Il s'entretient avec Rachel Kessembangu.
Monsieur Nera Chanira Kaninda, bonjour.
Bonjour.
Comment l'histoire de la RDC a-t-elle façonné votre identité et votre parcours?
L'histoire de la RDC, bien évidemment, en tant que jeune aujourd'hui qui milite pour la défense et les respects des droits de l'homme et aussi pour la démocratie et la bonne gouvernance, nous estimons déjà que l'histoire de la RDC nous a inspiré à pouvoir militer pour le développement et l'émergence de notre pays. Et comme dans notre mouvement citoyen, engagement citoyen pour le changement, l'idéal repose sur la programmation de l'homme congolais qui renvoie tout simplement à la notion de changement de mentalité. Parce que nous avons examiné l'histoire de notre pays et nous avons constaté forcément que la colonisation, la socialisation, les systèmes sociopolitiques tels qu'établis depuis l'époque coloniale a pu construire que des personnalités propices à la médiocrité, propices à la mauvaise citoyenneté, propices au déficit du patriotisme. Et c'est dans ces cadres que nous sommes en train de promouvoir les changements de mentalité parce que, à notre entendement, il est évident qu'il faut concevoir une nouvelle manière de percevoir les choses, de percevoir la nation, de construire et développer les sentiments d'appartenance patriotique à notre pays. Et surtout pour nous, les jeunes qui composons la majorité de la population congolaise à au moins 70%, il est évident que nous, particulièrement les jeunes, nous devons déterminer les développements notre pays, les déroulements socio-politiques, même la représentativité dans les instances de prise de décision devait être dominée par les jeunes parce que ce sont eux qui composent au moins la majorité à plus de 60% des électeurs. Et c'est dans cette optique que l'histoire de notre pays a façonné notre vision et bien entendu le mode même opératoire de notre manière à pouvoir lutter pour le bien-être tout en se basant sur les forces et les faiblesses, autant même les atouts et les erreurs qu'ont commis nos aînés, et qu'à travers cela, nous puissions mieux rectifier les tirs et favoriser l'émergence et le développement.
Vous êtes jeune activiste, dites-nous, qu'est-ce qui a déclenché ou quel a été l'élément déclencheur de votre intérêt pour l'histoire de la RDC?
Vous savez, en tant que jeune, nous sommes tous passés par le banc de l'école et bien entendu que la scolarisation, on peut dire la socialisation, nous a instruits sur l'histoire du pays et que nous avons aussi l'opportunité de scruter cette histoire par des analyses critiques du fait qu'aujourd'hui, où depuis des décennies, notre pays vit des génocides, de la précarité socio-économique, et qu'en dépit de la mondialisation et des faits même mondiaux qui sont en train d'évoluer, on se rend compte que rien ne marche et que dans la plupart des cas, non seulement la population ou l'homme congolais est ancré dans une mentalité rétrograde ou une mauvaise mentalité, et tous ces faits nous a permis non seulement de nous révolter, mais de pouvoir mieux scruter l'histoire pour que nous puissions aussi trouver des solutions efficaces et efficientes qui rassurent même l'avènement du développement, même de l'émergence de notre pays. Et c'est de cette manière que l'histoire nous sert de source de réflexion, d'analyse stratégique, de prospective stratégique pour permettre à ce que nos actions, nos programmes d'action soient mieux affichés et nous permettent d'apporter des résultats escomptés.
Mais comment votre engagement vous permet-il de vous approprier cette histoire et de la faire vivre?
Déjà, nous avons perçu de manière nouvelle, une nouvelle façon à travers les changements de mentalité, parce que nous estimons que c'est le seul moyen par lequel on peut permettre à ce que l'homme congolais puisse acquérir les notions de la citoyenneté responsable, les notions de l'engagement citoyen ou du patriotisme même qui renvoie au sentiment d'appartenance patriotique, ce qui fait en sorte que chacun soit conscient de sa responsabilité en tant que citoyen et que le destin du pays est entre notre main. Et c'est de cette manière que nous nous sommes rendus compte que nos aînés ont totalement failli. L'histoire de notre pays montre très bien que dans la plupart des cas, ce sont les hommes politiques qui font partie de la classe moyenne parce qu'ils ont assez d'opportunités pour pouvoir dilapider les ressources de notre pays. Et c'est de cette manière que notre engagement permet à ce que l'histoire de notre pays soit forcément changée parce que le sous-développement de notre pays a un stimuli. Et le stimuli, c'est la médiocrité de l'homme congolais en général et plus particulièrement de l'homme politique congolais. Et notre engagement qui se base bien entendu sur les changements de mentalité, qui se base sur des idéaux de vertu de la citoyenneté responsable, de la participation citoyenne, parce que cela nous amène aussi à se dire que nous avons la responsabilité de pouvoir contribuer au changement et apporter une valeur ajoutée. Et c'est de cette manière que cet engagement vraiment nous galvanise. Et nous sommes confiants que nous allons aboutir aux résultats escomptés.
Vous revenez souvent sur les changements de mentalité. Quels sont les défis que vous rencontrez dans cette démarche?
Déjà, les défis, il faut souligner que l'État congolais est débiteur des droits de l'homme parce que par sa gouvernance, c'est lui qui protège, c'est lui qui respecte et qui réalise les droits de l'homme. Si l'État lui-même est responsable à travers ses animateurs, c'est déjà un certain blocage et même défi dans les cadres des changements de mentalité parce que l'État doit être un acteur principal qui devrait booster les changements de mentalité. Et cela aussi renvoie au deuxième acteur qui est l'Église. Or, dans une situation normale, l'État, l'Église, l'école et même la famille sont des vecteurs même d'une mentalité positive ou une mentalité propice au développement. Et ce sont des défis majeurs que nous rencontrons et j'estime qu'avec des sensibilisations et des conscientisations que nous faisons, tant soit peu, nous arrivons à amener certaines personnes à pouvoir transcender leur mentalité, à pouvoir construire un nouveau mindset, et petit à petit, parce que ce n'est pas une mince affaire, bien entendu, parce que il y a des années que ce système de la médiocrité s'est installé, ce système de socialisation s'est installé, donc ça demande en fait aussi des années de sacrifices et des abnégations pour qu'on puisse aboutir au changement de mentalité où chacun va commencer à agir en fonction des valeurs, des vertus, et que chacun assumera vraiment la responsabilité d'un bon patriote et d'un bon citoyen.
De quelle manière l'histoire de la RDC influence-t-elle votre vision du présent et votre engagement pour l'avenir?
L'histoire de la RDC nous influence déjà de manière positive parce que nous avons choisi que cette influence soit positive, et c'est pourquoi nous sommes décidés de pouvoir promouvoir les changements de mentalité, de pouvoir mobiliser, conscientiser les jeunes, particulièrement à la prise de conscience collective, à la citoyenneté responsable, à l'engagement, surtout l'engagement citoyen, parce que c'est par l'engagement citoyen que le peuple contribue ou participe à la gestion de la chose publique. Et c'est un choix que nous avons fait pour que on puisse aller de l'avant. Et par contre, vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a ces jeunes qui dont l'histoire les a influencés forcément négativement parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent plus rien, ils n'ont pas des atouts pour pouvoir apporter des changements. Contrairement à nous, cette histoire nous a permis de jeter des bases idéologiques, des bases vertueuses pour assumer et prendre en main les destins de notre pays.
Est-ce que vous avez de projets, vous avez des initiatives pour sensibiliser d'autres jeunes à l'histoire de la RDC, inciter ces jeunes-là à avoir ce goût de connaître, de comprendre l'histoire du pays?
Déjà, c'est ce que nous faisons au sein de notre mouvement citoyen ECHA, parce que pour pouvoir amener une personne à s'engager citoyennement dans la lutte non violente, comme nous le faisons, la lutte pour la démocratie, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, et il est évident qu'il est impératif que les jeunes puissent d'abord au préalable connaître l'histoire et comprendre d'où nous venons, où nous devons aller et comment est-ce que nous-mêmes nous devons tracer les chemins de l'émergence ou du développement de notre pays. Nous faisons aussi des sensibilisations communautaires, bien entendu aussi des sensibilisations digitales à travers les réseaux sociaux. Et notre sensibilisation est plus orientée sur la façon par laquelle nous devons prendre la vie du côté positif pour que l'histoire de notre pays nous détermine à devenir des acteurs de changement, et des acteurs de développement, des acteurs de l'émergence de notre pays à travers les changements de mentalité et la construction d'un bon mindset positif qui nous prédispose à pouvoir contribuer significativement au développement de notre pays.
Comme vous le savez, ce programme cible particulièrement les enfants et les jeunes. Quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer dans la construction du récit national?
Les jeunes doivent prendre conscience que lorsque nous naissons en tant que Congolais, c'est qu'il sous-entend que naturellement et divinement, la RDC c'est notre nation, c'est notre identité, c'est tout ce que nous avons, et nous devons développer le patriotisme qui est en soi un sentiment d'appartenance patriotique à notre pays. Et par là, cela nous incombe la responsabilité de la citoyenneté responsable, si je peux le dire ainsi, et qui renvoie à l'engagement citoyen où chaque jeune doit pouvoir participer au développement de notre pays d'une manière ou d'une autre. Si les uns peuvent les faire de manière politique, mais que ça se base sur des idéaux et des vertus, si les autres peuvent les faire à travers l'engagement citoyen, comme nous les faisons nous au sein de la société civile ou au sein du mouvement citoyen ECHA, cela doit se faire bien entendu en participant au développement de notre pays par la non-violence active, la non-violence constructive, en contribuant par nos idées, en contribuant par nos analyses critiques et pour aboutir à des solutions, parce que nous devons non pas être des problèmes ou raisonner des problèmes, mais plutôt être des solutions, des alternatives aux défis auxquels notre pays est confronté. Et c'est dans cette perspective que nous, les jeunes, je nous mobilise à pouvoir entrevoir, et d'ailleurs je nous mobilise même à nous rejoindre dans cet élan de la lutte citoyenne pour qu'ensemble puissions vraiment travailler sur l'avènement d'un Congo nouveau, un Congo émergent et prospère.
Nous tendons vers la fin de cette interview. Comment l'histoire peut-elle inspirer et guider l'action des jeunes leaders?
pour bien vivre le présent et préparer le futur, ça c'est une évidence, il faut vraiment connaître l'histoire, parce qu'en connaissant l'histoire, on sait savoir nos origines, nous savons connaître ce qui détermine notre société, notre communauté, notre nation, notre pays, et cela permet de comprendre pourquoi nous vivons une situation X ou Y, et que dans quelle perspective ou de quelle manière nous pouvons capitaliser les atouts de notre histoire et aussi capitaliser aussi nos propres atouts pour pouvoir travailler sur des alternatives positives, efficaces ou efficientes propices à l'évolution de notre pays. Et je crois que chaque jeune ou chaque patriote congolais devrait percevoir l'histoire de cette manière-là, l'analyser bien évidemment, et surtout, comme je disais tantôt, analyser dans la perspective des solutions et des alternatives propices au développement de notre pays et s'engager vraiment à être non seulement des citoyens responsables, mais d'être en soi des solutions aux problèmes et aux défis auxquels notre pays est confronté.
Pour finir, quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes générations concernant l'histoire de la République démocratique du Congo ?
Je mobilise les jeunes à la prise de conscience collective, à la prise de conscience collective sur le patriotisme, la citoyenneté responsable, surtout en cette période critique que vit notre pays. Et nous qui sommes la majorité de la population congolaise, nous avons le devoir de déterminer les choses, nous avons le devoir de nous mobiliser à l'unité de notre patrie, de notre nation, pour pouvoir défendre non seulement l'intégrité de notre territoire national, mais surtout également de pouvoir promouvoir le développement et l'émergence de notre pays. Et je nous invite vraiment particulièrement à adhérer à Aïcha et à participer au développement de notre pays par l'engagement citoyen, et qu'ensemble nous allons propulser notre pays vers son développement et l'émergence. Et cet engagement doit être pris consciemment, individuellement, et sur base de vertus et de valeurs qui guident l'humanité et qui permettraient à ce que notre pays reflète ou rayonne au cœur du monde.
Monsieur Nera Chanera Kaninda, merci d'avoir répondu à nos questions.
Le plaisir est également pour moi.
Un peuple sans histoire est un peuple sans avenir, dit-on. Pourtant, l'enseignement de l'histoire au Congo semble être un parent pauvre. Manque de moyens, manque de considération, manque de personnel qualifié. Les conséquences sont réelles. De jeunes qui ignorent leur propre histoire et qui, par conséquent, ont du mal à comprendre le monde qui les entoure. C'est ce que déplore Corneille Mayakamana, enseignant au complexe scolaire Ilikia Angeli, au micro de Grace Nvezolo. Il alerte sur le manque de considération accordée à cette matière pourtant essentielle.
Bonjour, monsieur Corneille Kouyakamana.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes enseignant d'histoire au complexe scolaire Elikia. Quelle importance accorde-t-on au cours d'histoire dans l'apprentissage à l'école?
Les cours d'histoire, comme vous le savez, très important. D'ailleurs, un peuple sans histoire, c'est un peuple sans avenir, un peuple qui s'ignore, ne peut pas évoluer. Alors, les cours d'histoire éveillent les consciences des élèves, parce que l'élève doit reconnaître son identité. Et cette identité, c'est à partir de l'histoire qu'on lui rappelle. C'est comme ça qu'il peut facilement évoluer dans la vie, tout en sachant ses repères.
Quelle est l'importance qu'on accorde à ces cours comparativement aux autres cours?
Oui, bon, dans les pays en voie de développement, aux pays pauvres, les cours d'histoire n'est pas vraiment du tout considéré, contrairement aux pays qui sont développés, parce que c'est là où leur histoire ou l'histoire de ces pays-là les préoccupe. Et nous, parce que nous avons des problèmes qui nous concernent, c'est comme ça que nous ignorons simplement l'histoire. Et c'est comme ça que dans les programmes, dans les écoles, par rapport aux cours d'histoire, on l'accorde un nombre d'heures un peu réduit par rapport à d'autres cours. Et c'est de cette façon qu'aujourd'hui, nos enfants peuvent ignorer. Ils peuvent ignorer l'histoire non seulement de leur continent, du monde, et aussi l'histoire de leur pays. Donc la place accordée n'est pas du tout vraiment importante. Mais le cours en soi est très important parce qu'on parle de l'histoire d'un peuple, de l'histoire d'un pays.
Quelle est la pondération prévue à ce cours?
Oui, c'est la moindre pondération que nous accordons. C'est pas ceux qui ont conçu ce programme. Normalement, les cours d'histoire, parce que, comme je l'ai tantôt dit, nous concernent en grande partie, devraient aussi prendre une grande place ou une place importante dans la formation de nos enfants. Parce que vraiment, ça leur concerne. C'est pour leur avenir. Malheureusement, on accorde une petite pondération à ces cours, mais il y a même des écoles où on les confie à nos initiés, c'est-à-dire aux non-historiens. Et alors, celui qui enseigne les cours d'histoire doit être formé. S'il n'est pas formé, il fait n'importe quoi. C'est-à-dire, les gens pensent que nous devons accorder l'importance mathématiques, français, tant d'autres cours qu'on ajoute, surtout dans les classes options techniques. Et alors, on donne le cours d'histoire à un mathématicien pour compléter ses heures. On donne le cours d'histoire à un francophone. Donc, le cours d'histoire doit être enseigné par un historien pour que les enfants sentent la nécessité et l'importance même de ces cours-là.
Et par période, c'est sur combien la pondération par période et examen?
Oui, la pondération par période, c'est de 20 points. C'est un cours de, je peux dire, des troisième groupe. Tout ça passe, il y a des cours de pondération de 60, il y a des cours de 40 points la période. Donc si c'est 60 à la période, l'examen c'est sur 120. Si c'est 40 la période, l'examen c'est sur 80. Et l'histoire c'est 20. Alors, le troisième groupe, c'est 20 la période. Et à l'examen, le premier semestre c'est 40 points. Donc la sommation à la fin du semestre c'est 80. À la fin de l'année c'est 160 points. Or, normalement, l'histoire doit occuper la première place dans la formation, la vie de l'enfant. Parce que vous savez qu'à l'époque des empires et royaumes au monde, ne pouvaient faire l'histoire que des princes. Donc les princes, hormis leur autre formation, étaient censés d'apprendre l'histoire. Parce que c'était des gens qui étaient préparés à conduire, à diriger les pays. Donc vous ne pouvez pas diriger une entité, vous ne pouvez pas diriger un empire, un royaume ou un pays aujourd'hui sans que vous ayez une formation appropriée en histoire. Sinon, vous ferez toujours appel à d'autres personnes qui peuvent vous désorienter. Et si vous-même vous connaissez votre propre histoire, voilà que vous pouvez très bien évoluer.
Est-ce que ces cours est enseigné dans toutes les options, en commençant par l'école primaire, bien sûr?
À l'école primaire, c'est dans toutes les classes qu'on apprend l'histoire. Pas au niveau élémentaire, donc de première année, deuxième, mais à partir de troisième, je pense, primaire, qu'on apprend les cours d'histoire. Des fois aussi, c'est aussi une vieille histoire de Diego Cao, tout ça. Mais néanmoins, il y a aussi l'histoire des empires et royaumes de chez nous. Mais c'est au secondaire où les bas blessent. Au secondaire, au niveau de cycle terminal de l'enseignement des bases, donc de 7e, 8e, qu'on appelait à l'époque première, deuxième, secondaire, ça s'enseigne réellement. D'ailleurs, il y a une réforme importante parce que à l'époque où nous étudions, nous avons appris l'histoire du Moyen-Âge européen. On parle de Pépé le Bref, on parle de Charlemagne, l'Empire carolingien, tout ça. Mais avec la nouvelle réforme, que cette histoire ne se donne plus. Parce qu'elle ne nous concerne pas. On parle du Moyen-Âge européen. Et alors, on a fait un effort pour que les enfants apprennent aussi le Moyen-Âge de chez nous. Bien que l'Antiquité n'a pas du tout connu avec l'Antiquité. Nous avons l'Égypte qu'on étudie, bien que c'est une histoire aussi falsifiée. Mais alors, 7e, 8e, c'est là en grande partie. Il y a l'histoire en 7e de chez nous, les empires et les royaumes de chez nous. Et en 8e, il y a les contacts avec les Européens, tout en étant chez nous, toutes les résistances, les systèmes coloniaux. Donc, l'histoire de la 8e, vraiment, c'est l'histoire du Congo. La première partie, la deuxième partie, c'est l'histoire d'Afrique. Mais c'est au niveau des humanités où il y a un problème. Dans les écoles techniques, par exemple, c'est seulement en première année humanité où on apprend l'histoire. Et les autres classes supérieures, c'est là où on falsifie pour dire que ça devient une actualité. Bon, l'actualité, c'est pas du passé, c'est pas vraiment une identité vraiment historique d'un peuple, non. Donc, dans les écoles techniques, l'électricité, donc toutes les techniques confondues, là vraiment on minimise, on n'apprend pas l'histoire. Bien qu'étant congolais, africain, mais ils n'apprennent pas l'histoire. Mais c'est dans des options normales, comme la scientifique ou la biologie chimie, la pédagogie générale, la littéraire, c'est là où vraiment la formation continue jusqu'au niveau terminal.
Et quelle est la place de l'histoire du Congo particulièrement dans l'histoire enseignée à l'école?
Si nous parlons de notre propre histoire, l'histoire du Congo, d'une manière particulière, et en général l'histoire d'Afrique, parce qu'elle nous concerne. Donc nous ne pouvons pas savoir seulement ce qui était passé ici, et surtout vous savez que le découpage colonial est passé à l'insu de nos ancêtres. Il y a des royaumes de chez nous à l'époque qui, avec la colonisation, ont été divisés en parties. Donc vous verrez par exemple le royaume Congo qui prend une partie de l'Angola, une partie de Congo-Brazzaville et l'autre partie se trouve ici. Prenez par exemple l'empire Lunda, vous verrez qu'il y a une partie en Zambie, une autre partie en Angola. Donc nous sommes censés connaître l'histoire de non seulement pays voisins, aussi l'histoire d'Afrique. Alors, à l'époque, c'est pas parce que c'était un programme conçu par les colonisateurs qu'il avait accordé une place importante pour l'histoire étrangère, mais aujourd'hui, les enfants étudient vraiment tous les groupes ethniques. Les enfants étudient le Royaume Congo, l'Empire Luba, l'Empire Lunda, le Kuba, ainsi de suite. Et en 8e, vraiment en grande partie, toute l'histoire de la 8e, comme la géographie aussi de la 8e, concerne le Congo et l'Afrique. Et ça ne s'arrête pas là. Ces programmes se répètent, c'est par rapport à l'évolution de l'enfant. l'enfant. C'est que l'enfant a étudié en 7e ou en 8e, revient aux humanitaires, tantôt en première humanité, et au niveau terminal, là c'est la synthèse. Donc dans la synthèse de l'histoire, dans la formation, parce que l'enfant a grandi, on reprend tout ce qu'il a appris dans des classes antérieures et on résume. C'est comme ça, à la fin vous verrez, dans le programme d'histoire de 4e humanité, qu'on appelait à l'époque 6e, il y a un chapitre qui parle de la synthèse de l'histoire du Congo. Comment l'histoire du Congo a commencé avec les empires et les royaumes qu'on a connus, parce qu'avant l'écriture, quand il n'y avait pas encore l'écriture, là vraiment c'est la partie sombre qui nous échappe. Mais avec l'écriture, nous connaissons la formation des empires et des royaumes, comment nos empires et royaumes ont évolué et comment l'homme blanc est arrivé indépendamment de notre volonté, commence à se partager notre continent et avec des régimes de terreur comme celui de Léopold II avec sa quête de caoutchouc ici, où il fonde son état indépendant du Congo et finalement qu'il va céder à la Belgique. La Belgique conduit jusqu'à ce que nous soyons indépendants. Cette histoire continue jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, actuellement, il y a une place importante qu'on accorde à l'histoire de notre pays, bien que j'insiste que ce cours doit être donné par des initiés, pas des non-initiés, c'est-à-dire celui qui a pris une formation en histoire. Parce que lorsque le cours n'est pas donné par un historien, et alors il suscite un désintéressement aux enfants. Donc, le cours, comme l'intitulé le dit, l'histoire. Donc, l'histoire, on la raconte. Et lorsque vous la racontez à celui qui vous écoute, il doit vous trouver intéressant, votre histoire aussi intéressante. Donc, il faut que ça soit donné par ceux qui ont suivi une formation en cette matière. Et c'est comme ça que les élèves peuvent s'en approprier.
Certaines personnes pensent que les cours d'histoire, tels qu'enseignés, est rempli des hérésies, des histoires modifiées et maquillées par les colons pour cacher certaines vérités. Êtes-vous de cet avis?
Bon, pas du tout d'accord, mais parler des hérésies, en quelque sorte, cette histoire-là, je suis en train de parler. Laissé par les colons. Nous avons des grands historiens africains, à l'instar de Cheikh Anta Diop, de Amadou Ampateba, nous avons des historiens de chez nous, le professeur Ndaiwel et les autres. Ces gens ont pris quand même le temps de lire ce que l'homme blanc a laissé, vérifier la réalité sur terrain. C'est comme ça que toutes ces formes d'hérésie n'habillent plus l'histoire. Mais quant à la déformation ou la transformation, je prends par exemple l'exemple de l'Égypte antique, l'histoire de l'Égypte antique que nous enseignons aux enfants. Vous comprendrez que l'hiéroglyphe, l'écriture égyptienne, était, n'est-ce pas, déchiffrée ou traduite par Jean-François Champollion. Et c'est lui qui nous laisse l'héritage de notre propre histoire de l'Égypte. Je ne pense pas que le vrai côté positif a été révélé par celui qui l'a traduit. Parce que ce n'est pas un Africain, c'est un Européen qui alors traduit une écriture des nègres. Donc il y a bien des côtés, beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses que nos ancêtres égyptiens avaient inventées, qu'ils avaient écrites en hiéroglyphes. Et comme les générations qui ont suivi n'avaient pas la maîtrise de cette écriture-là, que c'était difficile. Mais alors, il y a vraiment une bonne partie de cette histoire qui était falsifiée. Et c'est à nous de faire des recherches. C'est à nous, dans nos pays respectifs, que les États, les gouvernements, dont en grande partie, ou peuvent financer les ministères des recherches scientifiques pour que les recherches dans l'anthropologie ou l'histoire proprement de l'archéologie puisse vraiment révéler tout ce que nos ancêtres avaient fait. Mais du côté des falsifications, là je peux être d'accord. Quant aux hérésies, c'est vérifiable, ce sont des réalités, ce sont des faits qui étaient passés, qu'on a mis par écrit.
Que faut-il faire pour améliorer ces modifications?
Au fur et à mesure nous évoluons, les réformes doivent toujours continuer à se faire. C'est-à-dire, pour que nous sortions d'abord dans l'état où nous sommes, vous savez que si nous ne reconnaissons pas notre identité, nous avons des difficultés. C'est comme ça, même les voisins se moquent de nous parce que nous-mêmes, nous nous ignorons. Et ils savent ce que nous sommes. Et c'est comme ça, ils sont prêts à nous attaquer parce que nous, nous sommes même pas à l'état d'inconscience. Alors, si nous pouvons d'abord accorder cette place très importante à l'histoire dans les programmes, je sais que les spécialistes en matière ne tarderont pas à les faire. C'est comme aujourd'hui, nous sommes attaqués par ces pays-ci. Il y a un serment du citoyen qui se dit dans l'école. Et ce serment n'est rien d'autre que de l'histoire. C'est-à-dire reconnaître que l'enfant puisse reconnaître son identité. L'enfant puisse reconnaître son histoire. L'histoire doit occuper une place très, très importante dans la formation des enfants. Et alors, au ministère, par exemple, le ministère de l'EPSP, d'encourager ce qu'ils peuvent faire, parce qu'aujourd'hui, si vous allez dans des instituts pédagogiques, les jeunes gens se désintéressent. Ils ne font plus l'histoire, parce qu'ils savent que si vous faites l'histoire, vous finirez toute votre vie à l'école en train d'apprendre, de raconter cette histoire, et en réalité, vous mourrez pauvre. C'est comme ça que nos enfants préfèrent aujourd'hui faire des techniques et autre chose. Donc, encourager les jeunes gens. D'abord, confier les cours à celui qui a appris l'histoire, qui doit donner ce goût-là aux apprenants, qui peuvent aller aussi faire l'histoire à l'université. Parce qu'en tout cas, je vous assure qu'il y a plus d'étudiants dans ces domaines-là, dans des options comme l'histoire. Alors, si les jeunes gens ne peuvent plus apprendre l'histoire, et c'est leur propre histoire qu'ils ignorent alors, et cette histoire sera appropriée par d'autres peuples qui viendront les raconter. Celui qui maîtrise ton histoire, lui maintenant, devient un véritable national, c'est-à-dire un véritable Congolais par rapport à toi-même, parce que tu t'es désintéressé. Donc, dans la formation, une pondération trop élevée pour que l'enfant sente l'importance de ça. Et s'ils peuvent se demander pourquoi ça, c'est parce que tu dois d'abord reconnaître ton histoire. Donc si tu ne reconnais pas d'où tu viens, tu ne seras pas là où tu vas. Et alors, tu seras dominé par c'est ça, les rapports de force au monde. Si vous ignorez ce qui vous appartient, vous serez dominé par des tierces personnes, par des tiers.
Monsieur Corneille Kouyakamana, merci.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
L'histoire de la RDC, un enjeu de mémoire et d'identité. Aujourd'hui, Bano Kapi donne la parole au professeur Bob Bobutaka, universitaire, archiviste et archéologue. Pour lui, il est inadmissible que l'histoire de notre pays ne soit pas enseignée dans nos écoles. Il dénonce les problèmes et propose de pistes de solutions pour que la vraie histoire de la RDC, celle écrite par le Congolais eux-mêmes, soit enfin transmise aux jeunes générations. Il est au micro de Jeff Opela.
Professeur Bob Bobutaka, vous êtes archiviste et archivologue, professeur des universités. Bonjour.
Bonjour, cher journaliste.
Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de jeunes et l'histoire du pays. Comment l'histoire de la RDC est-elle enseignée aujourd'hui à l'université ou dans nos écoles?
Au Québec, si. En fait, il y a des enseignements dans les domaines de l'histoire, que ce soit à l'école primaire, secondaire, même à l'université dans certaines facultés où la problématique de l'histoire est mise en évidence. Mais malheureusement, on constate que l'approche n'est pas vraiment endogène. D'autant plus que moi, je me rappelle moi-même, je maîtrisais plus l'histoire des Carolingiens, des guerres des Troie, ainsi de suite. Mais pourtant, ce qui s'est passé dans mon pays, par exemple l'indépendance, tous les systèmes de décolonisation, c'est à peine qu'on en parle dans les enseignements d'histoire de notre pays.
Alors, professeur, quels sont les points forts et les lacunes de cet enseignement en République démocratique du Congo et en Afrique en général?
C'est comme j'ai dit, on met pas mal l'accent sur l'histoire du Congo et du Congolais. Regardez par exemple, qu'est-ce qu'on dit sur Lumumba, sur le cardinal Malula, pour ne citer que ces deux-là. En fait, nos enfants ne connaissent pas la vraie histoire de ce pays-ci. C'est la raison pour laquelle les efforts doivent être vraiment fournis pour que les jeunes gens comprennent, s'approprient l'histoire du pays, puisque ce qui est le gage ou bien l'identité pour leur développement intellectuel et sociétal.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de relever quelques obstacles qui fait que le jeune ne s'approprie pas de l'histoire de ce pays?
Vous savez, en Afrique, aujourd'hui, il y a la tendance de ce qu'on dit la création ou bien la mise en valeur de la science endogène africaine ou bien du savoir endogène africain. Mais quand l'Africain lui-même ne maîtrise pas son passé, ça sert à quoi? Donc le problème n'est pas seulement ici, même au Sénégal. De temps en temps que je suis là, je me rends compte que Tchekata Diop n'est pas vraiment enseigné. Et pourtant, c'est un monument pour l'Afrique. Donc il faudrait vraiment que les dirigeants, les scientifiques, qu'on soit tous ensemble pour réévaluer et mettre en place de nouvelles stratégies pour l'appropriation de l'histoire africaine en général et l'histoire de la RDC en particulier pour notre jeunesse.
Alors professeur, comment les jeunes aujourd'hui peuvent-ils s'impliquer davantage dans la construction du récit national?
Mais à l'heure donnant l'opportunité de beaucoup lire, puisque l'histoire, c'est à travers l'appréhension des écrits, à travers la lecture et l'écriture. Donc si on ne lit pas, ce sera difficile de mettre en place une stratégie de création des récits historiques. Malheureusement, dans notre pays, on regrette, il n'y a pas vraiment une politique pour inciter les Congolais à la lecture. Mais par contre, on constate qu'il y a certaines mesures qui sont prises pour décourager la lecture, surtout à milieu universitaire. Tenez, on dit qu'à l'université, l'étudiant ne peut pas acheter les livres. Mais c'est extrêmement grave. Quand l'étudiant n'arrive pas à acheter les livres, donc il ne maîtrise pas ce qui est écrit. Donc il faudrait qu'on revoie cette situation. Le problème, ce n'est pas l'appropriation du livre. Le problème, c'est que l'État doit mettre en place les mécanismes pour que l'étudiant ait des moyens pour s'acheter des livres. La preuve en est que tous les collègues professeurs qui viennent de l'Europe, des fois financés par le gouvernement, ils reviennent avec des livres. C'est-à-dire qu'ils ont pu exploiter les livres. Mais ici, dans l'université, les étudiants terminent sans pourtant avoir un seul livre. Donc c'est un problème de fond. Même la déstabilisation de la RDC de 1960, mon estimé collègue, le professeur Mutama Makombo, avait fait une étude démontrant qu'il y a plus de 16 forums internationaux et nationaux sur la RDC. Mais où est-ce qu'on peut trouver cette documentation-là? En d'autres termes, où est-ce que les jeunes universitaires congolais peuvent aller pour exploiter ces documents afin de réaliser des articles scientifiques, des réflexions académiques, pourquoi pas des thèses de doctorat? Donc le système fait que bon, l'université n'a pas suffisamment de moyens de permettre à l'étudiant de créer des récits historiques.
Donc il y a un problème de financement.
Effectivement, il prend du financement, puisque l'achat du livre, on ne peut pas interdire l'achat du livre. Mais regardez par exemple, il n'y a pas de librairie dans nos bibliothèques. Il n'y a pas de presse universitaire dans nos bibliothèques. Ça, c'est le problème des fonds qu'on ne veut pas soulever. Mais ça crée un problème. Où qui peut exploiter les livres du professeur Ndaiwel? Tout le monde vante le professeur Ndaiwel, c'est le grand historien. Ok. On peut citer même les autres, les Kambay Boacha. Ils sont nombreux. Mais est-ce que les jeunes Congolais ont la possibilité d'explorer les écrits de tous ces grands historiens-là? Mais si le professeur Kambay Boacha veut mettre à disposition des étudiants, on va dire que non, prof, vous n'êtes pas autorisé. Finalement, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays-ci?
Voilà, professeur, nous avons compris la grande problématique, mais selon vous, quels sont les événements ou les figures historiques le plus importants à connaître hein, ou à comprendre dans l'histoire de la République démocratique du Congo?
Merci. Puisque la RDC date de la situation internationale africaine de 1876, après il y a eu la situation internationale du Congo en 1879. Par après, il y a eu l'État indépendant du Congo en 1885. En 1908, il y a eu le Congo belge. Et en 1960, il y a eu le Congo décolonisé. Alors, il faudrait que les dirigeants de toute cette strate étatique soient connus par les Congolais. Mais bien avant, même si c'était pas la RDC, mais il y avait des empires de royaumes que les Congolais sont censés connaître. Par exemple, le royaume du Congo, empire Lunda, royaume Kuba. Donc, il y a plusieurs éléments historiques qu'on doit exploiter pour la consolidation de l'histoire du jeune universitaire congolais. Mais à part ça, il faudra mettre en évidence les pères de l'indépendance. Quand je voyage dans plusieurs pays, je vois que vraiment les pères de l'indépendance sont honorés. Mais chez nous ici, pouvez-vous me dire là où on peut trouver les monuments où il y a les noms de Kasavubu, de Lumumba, de Kashamura, de Mandungu, de Bobanga, tous ceux qui ont participé à la conférence, à des tables rondes. Il n'y en a pas. Et pourtant, il y a toute une place qu'on appelle la place de l'indépendance. Mais quelle est la symbolique qui est là? À part les pères de l'indépendance, il faut citer les grands qui ont participé notamment à l'évolution de ce pays-ci. La figure d'Étienne Tshisekedi ne peut pas être mise de côté. Tous les premiers ministres, les écrivains, les musiciens, les sportifs, aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer la perte d'Edingwe. Mais il y avait des Kélé. Donc, il y avait des maîtres Ndoubou en karaté et autres disciplines. Les footballeurs, et tous ces gens-là, les Kibongue, les Kidumu, les Tumbapous, mais ça fait partie de l'histoire de notre pays. Donc il faudrait qu'on mette vraiment en place une nouvelle stratégie pour qu'effectivement, ce que vous avez souhaité, que ça se matérialise.
C'est vrai, professeur, mais par moments, les jeunes doivent avoir quand même un regard critique. Hein. Mais comment aujourd'hui, à votre avis, les jeunes peuvent-ils développer un regard critique sur l'histoire et éviter les manipulations ou les simplifications?
La démarche simple, ils doivent avoir un maîtriser les matériaux d'histoire
comme ça, sur base de ça, on peut créer des ruptures épistémologiques. Puisque si on ne connaît rien, comment est-ce qu'on peut remettre en question ce qui a été fait? Donc, faisons en sorte pour que les bibliothèques soient enrichies. En principe, dans nos communes, dans nos quartiers, on devait avoir des bibliothèques. Au niveau, par exemple, de la ville qu'on a créée, Lumumbaville, ben, on devait avoir toutes les bibliothèques, ne serait-ce pour Lumumba. Donc, il y a vraiment les efforts doivent être fournis au niveau du gouvernement et principalement au niveau du ministère de la Culture, en intelligence avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, et bien entendu avec le ministère de l'enseignement supérieur, universitaire et celui de la recherche scientifique.
Étant archiviste et archivologue, professeur, quelles sont les sources historiques disponibles pour les jeunes qui souhaitent en savoir plus sur l'histoire de la République démocratique du Congo?
Effectivement, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, là, nous avons les éminents maîtres en matière d'histoire qui ont écrit. Et il ne faudra pas non plus oublier que l'histoire, ce n'est pas seulement l'affaire des historiens, mais dans chaque thématique, même journalistique, je vis mon aîné et estimé maître Etambo écrit un livre sur l'histoire de la presse en RDC. Donc, en économie, on doit le faire, en droit, en médecine, dans tous les domaines, et ça va nous permettre d'avoir effectivement l'histoire nationale du pays.
Donc cela prouve à suffisance qu'il y a nécessité de changer quelque chose, notamment au niveau de l'enseignement scolaire, pour informer davantage les jeunes sur l'histoire de la RDC. À votre avis, ça serait quoi comme changement?
Il faudrait qu'au niveau de l'enseignement primaire d'abord et secondaire, puisque la lecture, l'écriture, on l'apprend au niveau fondamental. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de manuels où on explique réellement la vraie histoire de la RDC. Puisque le Mumba avait dit, la vraie histoire de la RDC sera écrite par les Congolais. Il est vrai qu'on ne peut pas rejeter ce que les autres ont fait et ce qu'ils vont faire pour la RDC, mais il faudrait qu'il y ait cette prise en charge des Congolais pour valoriser leur identité, notamment à travers l'approche généalogique. Vous savez que les jeunes ne maîtrisent pas leur généalogie. Et quand je suis avec souvent les collègues des droits, je dis, mais les droits du sol et les droits du sang est fonction de la mémoire, sinon de l'histoire ou des archives. Puisque si je ne connais pas mon arrière-arrière-arrière-grand-père, qui lui m'a permis d'être Congolais, de par son sang, de par le lieu qu'il avait occupé, mais en quoi je suis Congolais? Donc les efforts doivent être fournis dans ce secteur-là.
Voilà, professeur Bob Boboutaka, je rappelle que vous êtes archiviste et archivologue et aussi professeur des universités. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci, cher ami.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous rappelons que cette émission était consacrée à l'importance de l'histoire pour les jeunes. Vous avez découvert comment ils peuvent se l'approprier et comment elle peut les aider à construire leur avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.radiocapi.net ou sur notre page Facebook Banao Capi. Un grand merci à toute l'équipe qui a rendu cette émission possible. Plota Yambenga, Sulamit Kipuni, Jeff Opela, Ezekiel Mouzalia, Guylaine Kassassia, grâce au voisin Rachel Kessembangu, André Kitenge et Stanislas Djoumi. Merci à Christian Mapendano et à Chris pour la coordination et à Jean-Marc Matoakimo Felele Dijano pour la supervision. Debs Vita était à la mise en onde. Je suis Sarah Sumbela. Je vous dis merci et à très bientôt.